pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jardin, Jardin aux Tuileries, l'événement dédié au jardin urbain et à toutes les formes de nature en ville. C'est d'ici que nous émettons aujourd'hui, en public, pour cette série d'émissions pour une ville nature sous l'égide du programme Cité Verte Europe avec le soutien de l'Union Européenne et le relais en France de Valor. Alors tout d'abord quelques mots sur Valor. Valor, c'est l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. Sans plus attendre, un jingle.
Ville,
nature,
végétal,
architecture,
quartier,
paysage,
biodiversité,
culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.
Alors je vais commencer par un lieu commun, la santé. La santé occupe une place centrale dans nos vies. Tout le monde est d'accord ? C'est peu dire. La crise sanitaire a mis à nu notre système de santé et pas un jour se passe depuis sans que l'on s'en soucie. Pandémie, maladies chroniques, nous en parlerons. Crise des vocations occupe une large bande passante. Le soin est aussi devenu un mot largement utilisé, souvent dans sa version anglaise, le « care ». Les travaux de la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury ont fait des émules. Le soin porté à nos aînés défraie la chronique avec les scandales qui désormais ne sont plus tus. Dans le même temps, notre désir de nature se plébiscite, confirmé à chaque sondage, s'est mué en découverte de rapports sensibles avec le vivant. Planter, cultiver, attendre, récolter. Le premier confinement a vu la pratique du potager littéralement exploser. L'enseigne de bricolage Mano Mano l'avait confirmé par un sondage dès le mois d'avril 2020. Et les articles de presse sur le bien-être que nous procure le contact avec la nature ont fait floresse. Je citerai ici des paroles déclamées en 1967 par la grosse voix de Jean Stoux, que je ne me risquerai pas à imiter. Je le cite, « Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche, et nous en avons beaucoup aujourd'hui, et de verdure également, que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. » Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la chanson de Baloo dans le dessin animé de Walt Disney, adapté du roman de Rudyard Kipling, le livre de la jungle. Alors nous allons nous interroger aujourd'hui sur les relations entre le jardin et la santé. Nous allons en particulier parcourir ce que l'on appelle les jardins à visée thérapeutique, qui est la spécialité de nos intervenants, qui est une spécialité promise. J'en suis certain, et vous l'êtes probablement, chères auditrices et chers auditeurs, à un grand avenir. Le jardin, c'est la santé. Jardin à visée thérapeutique, pourquoi, comment, avec qui ? Pour en parler, nous recevrons donc 4 intervenants. Je commence à ma droite par Florence Gottignot. Florence, vous êtes paysagiste conceptrice, le titre est important, membre de la Fédération Jardin, Nature et Santé, la FFJNS. Vous aurez tous retenu l'acronyme après cette émission. À votre droite, Philippe Walsh, entrepreneur du paysage, également membre de cette fédération. À ma gauche, Gérard Lorimier, chirurgien en cancérologie et tout à gauche, évidemment, Gilles Galopin, enseignant-chercheur en biologie végétale à l'Institut Agro Rennes-Angers. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, citons que vous êtes impliqué dans la création d'un jardin qui est présenté dans le cadre de Jardin Jardin aux Tuileries et qui est intitulé « Le jardin, c'est la santé ». Jardin qui va être largement photographié. Et donc, au moment où vous, chères auditrices et chers auditeurs, écoutez le podcast ou visualisez le replay de cette émission, vous pourrez vous faire une idée de ces créations en tapant « Le jardin, c'est la santé » sur les internets. Ce jardin, c'est une initiative conjointe entre l'association Jardin et Santé, la Fédération Jardin, Nature et Santé et l'Institut Agro Rennes-Angers, vous l'avez compris, avec le soutien de la Fondation AIA, de la Fondation Greenlink, de Tectona et d'autres partenaires, et notamment la réalisation et le soutien financier de LGA, la Générale d'Aménagement, que ce soit dit. Alors Gilles, on va commencer par vous. Vous êtes docteur en biologie végétale et enseignant-chercheur, nous l'avons dit. Vous êtes surtout, depuis une dizaine d'années, un pionnier dans les recherches liant les sciences du vivant et les sciences de la médecine pour explorer les rapports entre la nature et la santé. Alors, je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à l'écoute des podcasts de l'émission Natures Urbaines sur Radio Imo et Radio Territoria, sur lesquels nous émettons aujourd'hui. Et nous avions consacré ensemble, Gilles, en 2021, 2 épisodes d'à peu près 52 minutes à ce vaste et passionnant thème. Alors, la règle du jeu à laquelle j'ai dérogé, ce sont des réponses courtes, puisque nous avons à peu près 45 minutes pour nous exprimer aujourd'hui. Première question pour vous, Gilles. Quel rapport y a-t-il entre le bien-être et la santé ? On entend régulièrement parler des vertus du jardin sur le bien-être, mais pas sur la santé à proprement parler. Donc, quels sont ces bienfaits ? Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'un jardin à visée thérapeutique ? Et nous préciserons cette question tout à l'heure. Premièrement, quels sont les bienfaits du jardin sur la santé ?
Bon, ben, bonjour à tous, merci Pierre. Question, réponse courte, tu m'as dit ?
Oui,
bon, ça va être compliqué. Non, juste dire simplement que de toute façon, bien-être, ça permet d'aller vers une bonne santé. Mm-hmm. S'il y a un mal-être, obligatoirement, les choses vont se compliquer. Donc déjà, je pense que le rapport est très simple, facile à comprendre. Les gens, si leur environnement de vie, si leurs conditions de vie font qu'ils sont dans une situation de bien-être, alors ça sera favorable pour leur santé. Et pour dire ça, tout simplement, je vais rappeler la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé qui dit que la santé, ce n'est pas simplement l'absence d'une pathologie. Hein, c'est un bien-être mental, social, physique qui va contribuer au bien-être des habitants. Alors quand tu parlais de jardin à visée thérapeutique, moi je veux faire une distinction importante puisqu'en fait le bien-être, c'est pendant toute notre vie, c'est-à-dire de notre enfance à notre mort. C'est-à-dire que le végétal nous entoure au quotidien et c'est autour de ce végétal, de cet environnement qu'on grandit, qu'on s'éduque, qu'on apprend à vivre ensemble. Et ça, c'est toute notre vie. Et quand je dis jusqu'à notre mort, ça nous accompagne, y compris pour favoriser le bien-être quand on est un peu plus âgé. Parce que je dis aussi que le fait d'être âgé n'est pas une maladie. Mais à un moment donné, dans notre vie, eh bien, on peut avoir certaines pathologies déclarées, reconnues. Et là, il faut faire plus. Il ne suffit pas d'être immergé dans un environnement végétal et naturel. Il faut faire plus pour que cet environnement puisse accompagner la personne avec d'autres partenaires pour les aider à guérir et aller vers une meilleure santé.
Alors, qu'est-ce que, du coup, un jardin à visée thérapeutique dans ce cadre-là, dans ces moments où on a besoin d'aide ? Et moi, ma question, Gilles, avant de passer la parole à Gérard, est-ce que ce sont les activités, c'est-à-dire le fait de mettre les mains dans la terre, ou le jardin en lui-même, qui sont thérapeutiques ?
Alors, le fait de mettre les mains dans la terre, le fait d'être immergé dans la nature, dans la forêt, tout ça, comme je disais tout à l'heure, c'est bien pour le bien-être. Quand on est dans une situation pathologique, hein, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est plus simplement de l'immersion. C'est-à-dire qu'il faut être, il y a une médiation végétale. Hein. Et donc, à ce moment-là, c'est quoi un jardin thérapeutique ? C'est un jardin qui est dans un lieu de soins, qui participe, en fait, à l'accompagnement thérapeutique du patient et qui va favoriser sa guérison. Donc là, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la notion d'animation, parce qu'on est nombreux et chacun va exprimer son point de vue. Mais dans cette notion d'animation, il y a un certain nombre de choses à voir et il y a plusieurs partenaires. C'est-à-dire qu'il y a le corps médical, il y a le patient, il y a l'environnement et on travaillera ensemble pour mettre les animations adéquates en fonction du besoin du patient.
Alors nous allons y venir et justement, vous parlez du corps médical, Gilles. Gérard, vous êtes chirurgien en oncologie. À la retraite, de 1988 à 2012, vous avez dirigé le département d'oncologie chirurgicale de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, Paul Papin, à Angers. On salue toutes les angevines et tous les angevins. Et vous êtes particulièrement intéressé au cours de votre carrière aux causes environnementales des cancers. On est à quelques jours de la Journée mondiale de l'environnement et cette émission est décidément extrêmement à propos. Vous vous intéressez aussi à la résilience des patients, à leur réinsertion sociétale et à la prévention des récidives. J'ai écrit ça en allant voir votre bibliographie et vous êtes notamment l'auteur de Cancer, la nature, source de prévention. Alors, même question que pour Gilles. Pour vous, en quoi le jardin est-il thérapeutique, vous, médecin, praticien depuis de nombreuses années ?
Alors, je vous remercie. Vous êtes bien renseigné, effectivement. Au cours de ma carrière, j'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont démontré qu'il y avait une différence de survie, une différence de récupération après des chirurgies quelquefois très lourdes, entre les patients qui vivaient au contact d'un milieu naturel, pas forcément faisant du jardin, mais vivant dans la nature, et ceux qui vivaient malheureusement dans le béton. Alors, bien sûr, il y a des problèmes sociétals qui se surajoutent, mais récemment vient d'être encore démontré que pour les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, par exemple, eh bien, les enfants qui vivent dans le béton eh bien, ont des taux de leucémie aiguë lymphoblastique beaucoup plus élevés que ceux qui vivent à la campagne. Mmh. Et des études comme ça, il y en a des centaines. Ce que j'ai constaté aussi au cours de ma carrière, et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la résilience, c'est que la maladie, enfin notre vie à nous, répond à une loi chaotique qu'on appelle la loi proie prédateur. Il y a le malade, il y a son entourage, son biotope, mmh. et la maladie. Et quelquefois, la maladie, elle est liée à une altération du biotope. Tout ce qui est traumatisme psycho-affectif, tout ce qui est mal vivre, tout ce qui est vie hyper stressante, on parle beaucoup du burn-out, tout ça entraîne systématiquement une immunodépression. Eh bien, il faut savoir que la nature et les jardins à visée thérapeutique, et en particulier les jardins à visée thérapeutique faits en groupe, permet de développer ce que j'appelle une résilience collective. C'est-à-dire que les patients, entre eux, vont s'aider, vont se stimuler et vont du coup avoir une meilleure compliance au traitement et du coup guérir mieux. Et ce que je vous dis n'est pas du tout... c'est démontré, en particulier par M. Kingley, qui a démontré que les promenades en forêt de pins stimulait notre système immunitaire, en particulier notre immunité cellulaire, c'est celle qui tue les cellules cancéreuses en particulier, et que non seulement ça stimulait notre système immunitaire, mais qu'il a démontré en 2010 que cette stimulation était corrélée à la teneur sérique en alpha-pinène, c'est-à-dire qui est un terpène, un arôme de nos plantes, et que c'était corrélé également à la teneur de ces terpènes dans l'atmosphère. Et moi, ça faisait... J'ai toujours entendu parler de l'effet terpène. C'est moi qui ai inventé, je crois, le terme effet terpène dans les années 2002-2003. Et j'en parlais avec mes patients. Parce que mon grand-père me disait, quand il respirait une rose, il me disait, tu vois, ça nous apporte autant de bien et de plaisir qu'une femme aimée. Et il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, la science a démontré que respirer ces terpènes déclenchait chez nous une sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'amour, l'hormone de la vie. Et cette ocytocine stimule notre système immunitaire. Voilà, j'ai pratiquement fait le tour de ce qu'il fallait dire, sinon je vais parler deux heures. Il y a une petite conférence cet après-midi, je vous y invite.
Et ben voilà, et puis nous renvoyons à la lecture de vos ouvrages. Ce qui me frappe, vous utilisez un vocabulaire que ne renieraient pas les écologues. Vous parlez de biotope, le milieu dans lequel vivent les espèces, qui est quelque chose de très important, qui va interpeller aussi les paysagistes qui sont à ma droite et qui trépignent d'impatience de prendre la parole. Et puis vous parlez aussi de l'effet collectif. Et ça me fait penser à un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Petit clin d'œil à Mowgli tout à l'heure. Oui. Ça n'est pas que la loi du plus fort, c'est aussi la force du collectif. Et c'est important de le rappeler. Et qu'y a-t-il de plus beau que de respirer le parfum des fleurs? Nous pourrions en faire une chanson, mais je crois que ça a déjà été fait. Juste une deuxième question pour vous, Gérard, avant que nous entamions une discussion collective après avoir interrogé nos deux amis paysagistes. Comment est-ce que le jardin à visée thérapeutique pourrait s'inscrire dans ce qu'on appelle le parcours de soins?
Alors c'est une très bonne question, et c'est d'ailleurs une de nos préoccupations, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à monter... je dirais une étude, une évaluation qui soit, on sait déjà, il y a eu beaucoup d'évaluations qui ont été faites sur l'apport psycho-affectif et émotionnel dans les jardins à visée thérapeutique, mais dans le cadre d'un programme de récupération, d'amélioration de récupération après chirurgie, on aurait besoin de preuves biologiques. Or, on a certaines preuves biologiques. On sait par exemple que les gens qui vivent au contact de la verdure ou du jardin, quand ils ont fait un cancer du côlon ou un cancer du sein, eh bien, et qu'on compare à d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance d'être dans un jardin à visée thérapeutique ou d'être au contact de la nature, eh bien, la différence de survie à 5 ans est de 25%. Ça a été démontré, il y a une publication, etc. Et puis il y a d'autres paramètres qui... Donc, mais on a besoin de preuves biologiques. Je vous parlais de l'ocytocine. L'ocytocine, il y a la stimulation de notre axe du stress, hypothalamo-hypophyso-surrénien, les dosages du cortisol, tout ça. Il y a plein de paramètres biologiques qu'on devrait pouvoir étudier. Et je pense que nous allons réfléchir avec Gilles et l'ensemble de toutes les associations et personnes impliquées dans les jardins à visée thérapeutique pour essayer de monter une étude nationale sur une évaluation biologique. Pour dire, voilà, le parcours du patient doit comprendre
Telles et telles étapes.
Telles et telles étapes, c'est-à-dire reconstituer un biotope.
Donc c'est intéressant, quand je vous écoute, merci beaucoup docteur, la première des choses, c'est la prévention. Et je suis assez frappé de voir que le nouveau gouvernement, qui est un gouvernement entre l'élection présidentielle et les élections législatives, dans ce gouvernement, le ministère de la Santé a été renommé ministère de la Santé et de la Prévention. Alors certains disent qu'il s'agit de se prémunir de manque de masques ou d'autres choses. Moi, j'y vois un signal plutôt positif par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure et probablement une opportunité à saisir pour tous les acteurs, qu'ils soient praticiens ou de la recherche. Et puis la deuxième chose que vous dites, c'est que dans la récupération post-traumatique, post-maladie, il y a aussi un rôle à jouer et on pourrait établir des protocoles. On va revenir tout à l'heure sur l'aspect recherche. Je voudrais qu'on continue notre cheminement des acteurs des jardins à visée thérapeutique avec celles et ceux qui les pensent et qui les font. On a bien compris, à vos côtés, vous, les médecins. Alors Florence, je me tourne vers vous. Vous êtes paysagiste conceptrice, je l'ai dit. Titre consacré par la loi sur la biodiversité de 2016. Petit clin d'œil à un de nos intervenants, Jean-Marc Bouillon, qui intervient dans une autre émission enregistrée ici, aux Tuileries. Vous avez fondé Outside, qui est le nom de votre cabinet, le bien nommé, basé à Brest. Alors évidemment, c'est Mieux Sec qui nous vient en tête. Tonnerre, tonnerre, surtout aujourd'hui, tonnerre de Brest. Mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Même la terre part à la renverse. Je trouvais ce clin d'œil assez intéressant. Vous contribuez à faire votre part, comme on dit, comme le colibri, pour la remettre à l'endroit, cette terre qui est à la renverse. En tant que formatrice au sein du prestigieux, on ne le présente plus en tout cas dans le milieu du jardin, domaine de Chaumont-sur-Loire, justement sur les thèmes des jardins à visée thérapeutique. Vous avez conçu le jardin qui est présenté aux Tuileries et c'était un défi, puisque le faire en un délai extrêmement court, le faire sur 50 mètres carrés et le faire, si je puis dire, hors sol, avec une commande qui était comment démontrer comment présenter ce qu'est un jardin à visée thérapeutique, alors même que nous venons de dire qu'il doit s'inscrire dans un contexte donné, que ce soit celui des lieux, mais aussi celui des malades auxquels on s'intéresse, des gens, je mets ce terme générique des gens, des médecins ou des animateurs qui vont le faire vivre aux côtés des patients et de leurs familles. Donc bravo, et je ne vous cire pas les pompes, puisque aujourd'hui ce serait bien inutile. Et vous l'avez fait, et je terminerai après cette boutade, vous l'avez fait bénévolement. Et ça, c'est aussi quelque chose pour moi d'important. Il y a beaucoup de générosité dans ce secteur. La générosité, pour moi, c'est un préalable à ce qu'on appelle la reconnaissance de la valeur et aussi de la valeur économique. Et quand je parlais du ministère tout à l'heure, j'ose espérer que cet élan de générosité des uns et des autres sera demain reconnu, puisque on va chercher à reconnaître la valeur scientifique de tout ça avec une recherche biologique, comme l'a indiqué le professeur Gérard Lorimier. Alors, question pour vous, Florence, après cette introduction. Tout simplement, c'est peut-être un peu réducteur. Quelles sont les composantes clés d'un jardin à visée thérapeutique ?
Alors, je commencerai déjà par un élément essentiel, mais qu'ont déjà évoqué Gilles et Gérard tout à l'heure. La première des choses, c'est l'immersion dans le vivant. C'est vraiment le point le plus essentiel d'un jardin thérapeutique, c'est cette immersion dans le vivant. Il faut ce contact avec le vivant, avec le végétal, avec aussi toute la vie qui va autour, la petite faune, les insectes, les oiseaux. C'est immerger la personne dans le vivant. C'est le contact, avec cette nature, avec cette vie qui va déjà effectivement commencer à réinscrire la personne dans un mieux-être. Donc cette immersion, elle est capitale et elle va entraîner aussi toute la mise en œuvre de la sensorialité des personnes et donc va les apporter progressivement vers des bienfaits. Après, dans ces jardins, il faut nécessairement des espaces. Après, hein, comme tu l'as dit, Pierre, effectivement, on va adapter chaque jardin. Il n'y a pas de jardin type. Il faut vraiment avoir un jardin qui soit adapté à la structure, aux personnes qui vont être accueillies dans ce jardin, à l'organisation et à ce que souhaite l'équipe soignante et au schéma thérapeutique du patient, c'est-à-dire savoir ce qu'on a envie de faire dans ce jardin. Donc tout ça, ça va définir le cahier des charges, mais après, il y a quelques points vraiment essentiels qu'on retrouve dans tous les jardins, outre La sécurisation, le fait que le jardin soit adapté, j'allais dire ça, c'est des choses que nous, paysagistes, on ajuste après en fonction. Mais j'allais dire, il y a vraiment quatre lieux, quatre besoins essentiels qu'on a besoin de trouver dans ces jardins et qui permettent à chacun de se retrouver et d'aller vers un mieux-être par rapport à son état de fatigue mentale ou son état de fragilité. Mais ça peut nous arriver à nous aussi. On a tous été parfois un petit peu avec justement le contexte duquel on espère qu'on sort, dans des situations un petit peu compliquées, et le jardin peut nous aider à nous restaurer. Donc, dans ces jardins, qu'est-ce qu'il doit y avoir ? En fait, dans le jardin, on a besoin soit d'y être, simplement. Une personne très fragilisée va avoir besoin d'être juste, j'allais dire juste, entre guillemets, immergée dans la nature. Vous aurez l'impression qu'elle n'y fait rien, mais elle est là dedans et c'est important. Elle n'est pas dans sa chambre, elle n'est pas dans du minéral, elle est au milieu du vivant et déjà ça va infuser des choses au travers d'elle. Donc ça, être et aussi par moments faire aussi au jardin. Faire au travers d'activités qui vont être encadrées par des soignants, par des professionnels ou même simplement cueillir une fleur, cueillir un radis, sentir. Et exprimer cette, enfin voilà, ressentir et avec tous ses sens en fait le jardin. Donc être ou faire au jardin, mais aussi donc le repos ou l'action, mais aussi soit en intimité, soit en groupe. On a parlé de l'effet de groupe, la stimulation collective qui est important. Mais par moment, on a aussi besoin d'être seul. Donc il y a vraiment ces lieux, des lieux d'intimité où on peut s'immerger complètement. Des lieux où on peut faire tout seul, mais aussi des lieux où on fait avec les autres et des lieux où on peut aussi se poser avec les autres, être en groupe à faire quelque chose dans le cadre du jardin. C'est pas la même chose de lire un journal à l'intérieur ou de lire un journal à l'extérieur, de raconter, de faire une partie de pétanque quand on est dans un jardin très luxuriant ou d'être dans un cadre très, très urbain et très minéral.
Et alors, vous, dans votre exercice de conception quotidien, j'allais dire, quelles clés vous pourriez donner à celles et ceux qui sont des aidants, par exemple, qui voudraient initier le sujet pour le composer ? Est-ce qu'il y a des figures imposées ou en tous les cas des incontournables ? On a parlé tout à l'heure de l'effet des arbres, alors dans l'immersion dans une pinède, on a parlé de l'importance du ressenti, que ce soit avec les aromatiques ou avec le parfum des roses, mais de tout un tas de fleurs. Est-ce qu'il y a comme ça des dans la palette végétale des figures de proue de ces jardins à visée thérapeutique ? Encore une fois, sans verser dans la caricature et dans les recettes, simplement pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent se raccrocher à des images.
Alors effectivement, ce choix de la palette végétale, elle est très importante. C'est vrai qu'à Chaumont, voilà, quand je forme les stagiaires, c'est vrai qu'on me demande souvent, alors qu'est-ce qu'on doit mettre, Alors j'essaye plutôt de donner, au lieu de donner des recettes, de donner des composantes. Alors après, mes comparses scientifiques et médecins donneront des points plus spécifiques par rapport effectivement à certaines molécules qu'on va chercher au travers du jardin. Mais il y a déjà des points importants qui sont, je vous ai parlé de sensorialité, d'immersion dans le vivant, donc on va chercher des plantes qui aident à éveiller cette sensorialité. Donc forcément, on pense aux plantes à parfum, aux plantes qu'on va pouvoir grignoter aussi dans le jardin. Tout de suite, c'est le plaisir immédiat, cueillir une groseille, une framboise. Voilà, ça, on va tout de suite être en contact. Il y a aussi toutes les plantes par le toucher qu'on va pouvoir, et l'ouïe aussi, qu'on peut développer au jardin. Et donc, c'est ce que j'appelle, on va chercher des végétaux qui sont généreux, qui ont plusieurs, qui ont cet effet sensoriel. Et en même temps, nous, au niveau de la conception des espaces, qui vont permettre de parfois créer des écrans pour créer ces cocons végétaux, des choses qui vont recouvrir, des plantes grimpantes, qu'on soit dans des grands espaces où on va pouvoir utiliser effectivement, hein, comme tu disais Pierre, des arbres. Mais il y a des endroits où on a des tout petits lieux. Là, vous verrez, c'est un jardin de 50 mètres carrés, hein, c'est pas grand. Parfois, on a même encore plus petit. Donc là, on va être plus sur des grimpantes. On va chercher par la verticalité à créer ce cocon. Donc Voilà, c'est vraiment utiliser des plantes qui sont généreuses, qui peuvent être aussi spectaculaires quand on est dans les activités. C'est-à-dire que suivant les personnes, si on est avec des enfants ou autres, on va parfois semer des choses qui vont pousser assez vite. Le tournesol, voilà, il y a un moment où presque chaque semaine ou toutes les deux semaines, on voit l'évolution. Mmh. Donc ça va être pour des gens qui ont un rapport au temps compliqué, ça va permettre d'inscrire la personne dans le temps. Donc il y a tous ces choix en fait qui peuvent être faits.
Alors, on va faire le lien. Maintenant que les choix sont faits, ils ne se font pas tout seuls. Et vous constituez un duo avec vous, Philippe, qui êtes entrepreneur du paysage. On peut le dire autrement, vous êtes jardinier paysagiste. Votre activité est installée dans le Vaucluse. Et il y a quelques années, vous vous êtes formé au sujet des jardins à visée thérapeutique auprès d'un médecin. Je vous laisserai citer son nom. Et votre entreprise se dénomme les Jardins à Vie. Vous avez contribué à distance, mais non sans consistance, au jardin présenté aux Tuileries, aux côtés notamment de Florence, et avec l'entreprise qui l'a réalisé, on voit bien ce trait d'union entre le concepteur et le jardinier. Et vous dites, comme un manifeste sur le site internet des Jardins à Vie, que les jardins à visée thérapeutique, c'est l'anti-clé en main standard. Tiens, tiens, c'est écrit. Qu'est-ce que vous diriez en complément des propos de Florence sur la manière de faire ce type de jardin ?
Florence a bien résumé quand même, parce qu'au départ, effectivement, c'est un projet de conception. Dans les centres de soins, souvent de co-conception participative, puisqu'il s'agit de créer un comité de pilotage avec la structure en question, alors que ce soit un hôpital, un EHPAD ou autre. Et on tient beaucoup à ça parce que ça va cerner un cahier des charges qui va permettre que quelqu'un comme moi qui ne suis pas issu du soin ne fasse pas de contresens. Alors certes, moi j'ai eu la chance d'être formé par le docteur France Criou qui a beaucoup beaucoup travaillé sur la ressource scientifique et qui fait elle-même des jardins, en particulier en psychiatrie, ce qui a pu me permettre de comprendre l'esprit de ce type de jardin. Alors une fois que le cahier des charges est cerné, c'est effectivement au paysagiste à proposer une solution qui va synthétiser, qui va peut-être accentuer certaines pistes. Par exemple, voilà, on parlait des plantes à parfum ou le toucher, parce que moi j'ai la chance, on va dire, de pouvoir travailler beaucoup sur des jardins d'EHPAD. Le Vaucluse étant très généreux, le département du Vaucluse étant très généreux pour les têtes blanches. En EHPAD. Et du coup, on arrive à faire des jardins qui correspondent quand même à l'expression de ces cinq sens, où l'odorat est quand même très travaillé. Le Vaucluse est aussi un département du soleil, donc on en profite là-dessus.
Et qu'est-ce que vous diriez des qualités dans la réalisation ? Est-ce que c'est comme tous les jardins, il faut être précis, bien organisé, etc. Ou est-ce qu'il y a là aussi un autre chose ?
Oui, alors il y a évidemment autre chose. Il y a des normes qu'on appelle par exemple les normes PMR. On a affaire à des personnes qui sont souvent en fauteuil, diminuées physiquement. Et par exemple, un bac surélevé faisant office de potager, on nous dit que la norme c'est 90 cm de haut, ben on va s'apercevoir que parfois pour des personnes, pardonnez le terme, mais très abîmées par la vie, on va être à 70 cm. Donc l'idée, et c'est la raison pour laquelle c'est très important de se retrouver en comité de pilotage avec des soignants qui vont dire, ben vous voyez, dans l'unité de vie protégée pour les démences, on a des gens qui physiquement vont bien, mais par contre cognitivement très déficients. Puis on a des gens qui sont en fauteuil, et on va adapter les solutions techniques à ça. Alors, vous voyez par exemple un parcours de rééducation. On peut avoir des psychomotriciens, des ergothérapeutes et des kinés qui demandent qu'il y ait un petit parcours de rééducation. Ça peut n'être par exemple qu'un petit ponton. Eh bien, récemment, on m'a fait faire un petit ponton où il y avait deux rampes parallèles et il y avait une lisse à 90 cm et une autre à 72, parce que ça correspondait aux 40 résidents qui étaient en l'occurrence. Donc c'est très très important, on ne peut pas faire, oui c'est l'anticlé en main, c'est quelque chose qui doit être réellement adapté à la population, et y compris même les végétaux, quand on fait une animation, on peut parfaitement faire des bacs avec des œillets d'Inde, des sauges d'ornement, et puis à côté des bacs d'aromatiques où tous les jours on viendra arroser, couper, et ce qui va véritablement participer, est-ce qu'on peut aller jusque-là, à la restauration, autre que nourricière, des personnes. Ouais.
Donc il y a cette récurrence, et ça fait le lien avec l'animation. Gilles, vous en avez parlé un peu tout à l'heure en parlant de médiation. Pour vous, de quelle manière est-ce que l'animation doit être imaginée, les animations qu'on va faire?
Alors bon, c'est un sujet quand même qui est, à mon avis, qui est central en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment l'animation qui va faire que le jardin va vraiment jouer son rôle et qu'il va y avoir des effets vraiment significatifs auprès des patients. Donc ça, c'est vraiment ce travail, et d'ailleurs Philippe en parlait, de travailler en amont avec les équipes pour bien comprendre en fait qu'est-ce qu'on va faire de ce jardin. Gérard parlait aussi tout à l'heure de recherche pour objectiver, on va dire, les effets au niveau des patients. Et là, on a aussi un feedback, c'est-à-dire que quand on va mieux comprendre, on va pouvoir mieux faire évoluer les animations et on va peut-être avoir une image aussi un petit peu différente de ce qu'est le jardin visé thérapeutique demain. Voilà, on est donc dans ce circuit. Moi, ce qui me paraît important à l'animation, c'est que, en fait, je vois un tripode derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a le patient, il y a le corps médical et il y a le jardin. En fait, il y a trois partenaires qui sont là, et donc il faut qu'il y ait une osmose, une harmonie qui se crée entre ces trois partenaires et qui change aussi les règles du jeu. Alors, quand je parle règles du jeu, c'est-à-dire que le patient, il est dans une clinique d'un hôpital, c'est une chambre stérile, blanche, il est isolé par rapport à sa maladie. Tout à l'heure, on parlait de partage.
Lien, ouais.
Voilà. Donc, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui fait que ça augmente son stress et son anxiété. Déjà, il sait qu'il a une pathologie, donc déjà, il est relativement anxieux. Et donc, tout ça augmente, en fait, ce stress et cette anxiété. Et quand on va aller vers le jardin, moi, je pense que c'est important, je sais qu'il y a une phase un peu de... un sas de décompression. C'est-à-dire que derrière ce jardin visithérapeutique, on encourage aussi, parce qu'on parle des jardins visithérapeutiques dans l'établissement de soins, mais on encourage aussi la végétalisation globale de l'établissement de soins. Les établissements qui ont des grands arbres, qui ont des grands espaces, qui ne sont pas obligatoirement thérapeutiques, au sens propre du terme.
Pensez pour eux.
Mais qu'il y ait ce sas de décompression, hein, c'est-à-dire que voilà, le patient il sort, il est dehors, et ça, c'est important. Et ça, souvent, le patient a besoin lui-même tout seul de se retrouver par rapport à ça. Et après, il va rentrer dans le jardin. Et là, dans le jardin, on rentre dans un autre espace où les règles sont complètement différentes. C'est-à-dire que, alors, juste évoquer deux choses pour faire rapide. Juste évoquer deux choses. C'est-à-dire que, en fait, le patient qui était soigné va s'occuper des plantes. Florence l'a dit, Philippe l'a dit. Donc, il va devenir aussi, lui, soignant. C'est-à-dire qu'il va prendre soin. Et donc là, il y a déjà un rapport qui est un petit peu différent. Et puis le rapport aussi entre le patient et le médecin ou le soignant va être aussi différent. Et c'est ce qu'on appelle, puisqu'en fait, il y a le jardin ou les plantes qui interviennent là, c'est ce qu'on appelle l'autre soi. C'est-à-dire qu'on va parler des plantes. Mais en parlant des plantes, eh bien, il ne va plus avoir ce rapport, on va dire, face à face, patient-soignant. Mais il va y avoir, on va parler des plantes, on va parler des arbres, on va parler comment ils se soignent, comment ils vivent en société, tout ça. Et ça, ça va avoir un effet très bénéfique auprès du patient, de façon très, très futile et très, très harmonieuse, comme je disais tout à l'heure.
C'est en quelque sorte une tierce partie neutre, indépendante de la maladie, qui permet de lier conversation autour de sujets positifs, c'est ça?
Oui, alors, juste rajouter, j'ai quelque chose que je n'ai pas dit. Dans ces trois tripodes, le patient... Le soignant et la plante, c'est trois êtres vivants. N'oublions pas, tous les trois, ils sont vivants.
Vous confirmez, Gérard Lorimier, ces propos?
Je suis tout à fait sur la même longueur.
Un tout petit peu plus près, pardon.
Je suis tout à fait sur la même longueur d'onde. Parce que concevoir ce qu'on appelle un écrin de verdure, je vous parlais tout à l'heure de biotope. Le patient qui est dans son écrin de verdure, même en dehors d'une activité de jardinage, déjà, il va déstresser. Et puis, il va entendre des oiseaux, il va sentir, tout ça, ça va créer, je dirais, un contact. Ça va créer un contact entre lui et les plantes, mais ça va lui donner aussi des sensations, des émotions qu'il va pouvoir partager. Partager avec d'autres patients, mais partager aussi avec les soignants. Et ça, c'est capital. Aujourd'hui, les médecins commencent à comprendre que y a pas, on n'est pas là que pour soigner la boule. D'ailleurs, si on ne s'occupe que de la boule, on est à côté de la plaque. Il faut s'occuper du biotope du malade. Sinon, on ne le guérira pas. Mmh. Et donc, dans le biotope, il y a les crânes verdures. Il y a tout ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je suis tout à fait sur la même longueur d'onde. Il faut que cet écran de verdure soit commun. Et d'ailleurs, les soignants, ils sont invités. Et c'est très bien qu'un soignant accompagne son patient faire une petite promenade dans le jardin. D'abord, ça fait du bien au patient, mmh. et ça fait du bien aussi aux soignants. Il ne faut pas oublier que la charge émotionnelle des patients, elle est extrêmement lourde. On l'a vu dans le Covid. Donc, c'est un point capital. Créer ces espaces de verdure, même en dehors d'un jardin à visite thérapeutique, créer un espace de verdure dans tous les établissements de santé, comme ça existait au 18e et 19e siècle, qu'on a malheureusement détruit pour faire des grands blocs de béton, il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Et puis, il y a d'autres avantages aussi d'être au contact du naturel, c'est aussi des avantages immunitaires. On en parlera un peu plus.
Eh ben, on en parlera un petit peu plus et puis on renvoie à la lecture et à l'écoute de vos interventions régulières, Gérard Lorimier. Nous arrivons bientôt au terme de l'émission, il nous reste une dizaine de minutes. Je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent que nous sommes en présence de Florence Gottignaud, paysagiste conceptrice, membre de la Fédération française Jardin, Nature et Santé, dont nous saluons le président, M. Ziegler. Nous sommes en présence d'un entrepreneur du paysage, jardinier paysagiste, qui est M. Philippe Walsh, de Gilles Galopin, docteur en biologie végétale HDR et qui est à l'Institut Agro Rennes Angers, et de Gérard Lorimier, chirurgien en oncologie à la retraite mais particulièrement actif sur les sujets qui nous préoccupent. Le jardin, c'est la santé. Et je salue aussi la présence de Monsieur Decrépy, président de l'association Jardin et Santé. Nous allons continuer sur le sujet des animations. Je voudrais, question courte, réponse courte, à la cantonade. Quel type d'animation, concrètement, on peut réaliser dans les jardins à visée thérapeutique ? Florence, Philippe, allez-y. Prenez la parole, je vous en prie.
Oh bah, enfin, j'allais dire, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Alors, citez quelques exemples pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent.
Ben, en fait, c'est vrai que par rapport notamment au potager, aux plantes potagères, vous en verrez un petit peu dans le jardin, il y a vraiment une foule d'activités par rapport à ça qu'on peut vraiment adapter à toutes les fragilités ou états de santé ou pathologies des patients, parce que par exemple, de travailler avec des graines, de la toute petite graine à la graine la plus grosse, entre une graine de moutarde et une graine de haricot, on va pouvoir travailler la motricité fine. Travailler à partir de la graine, c'est vraiment pour moi très, très fondateur et très essentiel, parce que c'est, je vous parlais du cycle de la vie tout à l'heure, et en partant de la graine et en allant jusqu'à la récolte et au semis à nouveau, on fait le cycle de la vie. Et là, on réinscrit la personne dans le cycle de la vie, et ces personnes qui sont fragilisées, elles ont besoin de ça. Donc déjà, ça me semble déjà un bon point de départ.
Alors, de la graine aux fruits, Philippe, qu'est-ce que vous faites avec vos anciens du Vaucluse?
Moi, par je parsème les jardins que j'ai la chance de faire de framboisiers qui peuvent monter au fur et à mesure à un mètre et qui permettent de à des résidents et à leurs accompagnants de glaner comme ça des framboises à la cantonade. C'est l'instant goûtu, c'est l'instant ici et maintenant. Et en fait, c'est ça qui est recherché. Et après, l'envie d'y retourner. Alors évidemment, si c'est au mois de décembre, c'est un peu moyen pour ça. Mmh. Mais voilà. Et puis après, bien entendu, mettre des... Comme on le disait, des bacs rehaussés pour pouvoir davantage soigner la plante, ce qui permet aussi de prendre soin d'une plante et donc de se soigner un peu soi-même. Ça, c'est assez connu. Voilà. Parce qu'aller arroser, aller ramasser une tomate, aller couper quelques fleurs parce qu'il y en a trop, en général avec un accompagnant, bah, ça, c'est drôlement bon.
Mmh.
C'est ce qu'on recherche.
C'est drôlement bon et vos framboises, elles nous donnent l'eau à la bouche. De l'eau, nous en avons, mais il n'est pas l'heure, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, pour les framboises. Gilles, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur des exemples d'animation avant d'aborder deux dernières questions rapides ?
Oui, alors bon, y a des animations assez classiques hein, en termes de motricité et autres. Mais moi je voudrais en parler avec beaucoup d'émotion parce que on a vu des choses au cours d'animation qui vraiment nous prennent au cœur. Hein. Je pense par exemple en pédopsychiatrie, hein, des enfants qui ne parlent pas et qui dans le jardin à un moment donné vont dire « Ah !» Voilà, parce qu'ils ont senti, ils ont vu une fleur, ils ont vu un parfum. Donc là, c'est les amener à se connecter à ce vivant et finalement à faire exprimer quelque chose qu'on pensait finalement impossible. Donc ça je trouve ça extrêmement super, émotionnel. Je pensais aussi, par exemple, en termes de motricité. Quand on est dans une salle hein, de motricité, voilà, avec du matériel qui est un peu blanc, enfin, qui est un peu aseptique, bon, c'est compliqué. Quand on travaille la motricité, c'est-à-dire la stabilité dynamique et statique, mais qu'on est avec des plantes, finalement, le patient, il oublie complètement qu'il est en train de travailler sur sa motricité. Parce qu'il est capté par le végétal, et il fait des choses, il fait des efforts au niveau musculaire et autres qui sont absolument extraordinaires et qui donnent des effets tout à fait significatifs qu'on n'a pas en chambre, on va dire, un peu plus stérile.
Alors, Gérard, vous vouliez ajouter quelque chose sur les animations peut-être ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec Gilles, à savoir que je pense que même les activités physiques adaptées qu'on peut utiliser après certaines chirurgies, ou même d'ailleurs après toute chirurgie, mais en particulier après les chirurgies de reconstruction, eh bien, elles ont leur place dans le jardin. Venir faire de l'activité physique adaptée dans le jardin, c'est mieux que de la faire dans une pièce fermée. D'abord, dehors, on profite un peu du soleil, on profite des arômes, on a ce côté déstressant qui se surajoute. Et puis, dernier point extrêmement important, je rejoins ce que vous disiez sur la nécessité de toucher. La nécessité de toucher les plantes, ça réveille aussi beaucoup d'autres sensations et ça réveille chez les gens qui ont été en particulier traumatisés physiquement, qui ont un handicap physique, que ce soit une amputation, que ce soit une reconstruction, ça réveille, ça va restimuler ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire redécouvrir son corps. Et ça, c'est un point important et on le fait d'autant mieux qu'on est entouré de végétaux. Voilà.
Alors, deux dernières questions. La première... pour chacun et chacune, pouvez-vous citer un exemple de jardin à visée thérapeutique qui vous a marqué ? Commençons par Florence.
Difficile de...
Ah, c'est la règle du jeu.
Un jardin. Est-ce que je peux deux ?
Allez-y, deux.
Allez. Un premier jardin, le jardin de Vézène dans le Loiret, donc c'est un jardin extra-institutionnel. Emmanuel, qui s'en occupe, a créé ce jardin et elle accueille dans son jardin des soignants avec leurs patients, avec des petits groupes, parce que ce sont des pathologies très lourdes, des gens fortement handicapés, et qui fait vraiment une adaptation au cas par cas, en lien avec les soignants, ce qu'on disait, pour trouver l'activité qui est importante pour la personne. Et je voulais aussi vous parler d'un autre jardin qui me tient à cœur, qui est conçu entièrement, mais qui n'est pas encore réalisé parce qu'ils sont en recherche de financement. C'est un jardin sur lequel j'ai travaillé avec un IME de Mayenne à destination d'enfants avec des troubles autistiques sévères. Et là, on a extrêmement travaillé sur la sensorialité en créant des bulles de verdure, en créant des points de découverte pour justement travailler sur cette sensorialité parce que l'équipe, enfant par enfant, détermine ce qu'il faut au niveau sensoriel, ce qu'il faut travailler, ce que pour lui c'est le toucher, plus la vue, plus le goût. Et on adapte énormément le jardin par rapport à tout ça. Donc et j'espère que ce jardin va très vite.
Rappelez les coordonnées de ce jardin, l'appel est lancé. C'est,
voilà,
l'IME.
C'est l'IME de Montaudin en Mayenne.
Voilà. Merci. Philippe.
Moi, je citerai le jardin des Mélisses à l'hôpital Nord de Saint-Étienne, qui a été conçu et réalisé par le docteur Criou et le docteur Romain Pommier, qui est un jeune psychiatre, et en 2015. Aujourd'hui, c'est 250 patients sur le service permanent et l'hôpital de jour qui donne lieu à des évaluations permettant de faire ressortir tous les points positifs au niveau corporel et psychique.
Excellent. Gilles ?
Alors moi, je citerai, parce que je crois que c'est le jardin qui m'a mis, on va dire, le pied à l'étrier. Mm-hmm. C'est le jardin, l'établissement public de santé mentale de Lille, qui est un jardin très ancien. Moi, j'avais été invité là-bas parce qu'en fait, les gens, à un moment donné, ils doivent être sécurisés, quoi. Et au lieu d'avoir des espaces clos un peu stériles, des grillages, des choses comme ça, de faire des barrières, on va dire, végétales. Voilà. Et en allant là-bas, j'ai découvert effectivement un jardin à visée thérapeutique. Alors, qui avait deux choses intéressantes. C'est premièrement le fait que dès que les patients pouvaient aller au jardin et tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais qui va dans le sens des discussions qu'on a au niveau du ministère de la Santé et puis des ARS, c'est de créer cette perméabilité, en fait, entre le monde, on va dire, contemporain, de tous les jours, et le monde, en fait, de soins. Et ce jardin-là permet aussi, une fois que le patient il est sorti, bon, souvent, dans ce genre d'établissement, des fois, les patients sortent, reviennent et autres, mm-hmm. de créer cette perméabilité permanente. Et en fait, le seul portail, on va dire, qui ouvre cette perméabilité, bah, c'était le jardin physiothérapeutique. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant.
De Lille, où allez-vous nous faire voyager, Gérard Lorimier ?
Aussi étrangement que cela puisse paraître, je n'ai malheureusement pas visité énormément de jardins à visée thérapeutique. Mm-hmm. Je garde par contre un excellent souvenir de nos parcs dans la Pitié-Salpêtrière, où on passait pas mal de temps, qui quelque part permettait aussi aux patients et aux soignants de se détendre. Et j'en garde un très bon souvenir. Mais sinon, un des plus beaux jardins qui, à mon avis, devrait être transformé en jardin à visée thérapeutique et qui en a toutes les qualités, qui est d'inspiration japonaise, ce sont les jardins de Maulévrier. Et je vous invite à aller les voir. Mmh. Voilà. Et sinon, je ne vais pas paraître trop chauvin en disant que celui de Angers, il est pas mal.
Ah, il est pas mal à Angers. Voilà, on l'attendait. Maulévrier, nous étions dans le sud du département du Maine-et-Loire et nous revenons à Angers. Merci beaucoup. Je signale aussi tout le travail qui est mené par les associations FFJNS et puis Jardin et Santé, et notamment la parution il y a 2 ans d'un guide pratique pour la réalisation des jardins à visée thérapeutique que vous avez coordonné avec Véronique Lelier, Gilles Galopin, avec le soutien de la Fondation Médéric Alzheimer. Et ces caractéristiques que je vous donne à l'oral vous permettront sur les internets d'aller télécharger librement ce guide assez étoffé. Et ça m'amène à la dernière question pour vous, Gilles et Gérard. On pouvait se dire avant cette émission, mais évidemment nous avions prévu l'inverse, que ce sujet est assez ésotérique. Certains peuvent sourire poliment, gentiment, voire avoir un sourire en coin, un peu de dédain. Vous nous avez démontré, Gérard, en citant des publications scientifiques, le sérieux de la démarche et aussi toutes les limites que vous voyez entre des corrélations observées et la recherche au sens biologique du terme dont vous parliez. En quelques mots, quels seraient les projets de recherche que vous aimeriez entamer, et je crois que vous voulez le faire en commun, et terminer sur cet appel que vous lancez auprès de toutes les parties prenantes qui pourraient s'investir dans ce projet. Je vous laisse la parole à tous les deux. Vas-y.
Alors, il faut savoir qu'il y a déjà eu quelques études anglo-saxonnes, prospectives, randomisées, également des études suédoises et norvégiennes qui sont très avancées sur l'évaluation biologique du contact avec les plantes d'une manière générale. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche faits en particulier dans les centres gériatriques et les centres psychiatriques, mais dans ce qui concerne le cancer en particulier, mm-hmm. il y a peu d'évaluations, très très peu, et dans tous les cas il y a des évaluations qui sont faites beaucoup en laboratoire sur l'efficacité de telle molécule ou sur des cultures cellulaires ou sur des animaux. Mais il n'y a pas d'études sur l'homme. Et donc ça, il faut qu'on y travaille. Et je pense plus particulièrement au cancer, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le petit sourire un petit peu ironique, je l'ai connu à une époque où j'ai proposé à un grand établissement français de construire un jardin à visée thérapeutique où on va sourire gentiment au nez. Et donc j'ai dit, tant pis. Mais voilà, donc il y a énormément de travail à faire, et ce qu'il faut faire, c'est prendre en charge les patients qui ont un cancer, les prendre avant et leur faire profiter du jardin avant. c'est-à-dire pour faciliter ce qu'on appelle un programme de récupération, d'amélioration post-chirurgie, pour la chirurgie. C'est les RAC. Récupération améliorée après chirurgie, excusez-moi. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on mettait en place ces programmes, on améliorait non seulement la morbi-mortalité, c'est-à-dire qu'on avait, on diminuait les conséquences des gestes, enfin de la thérapie, mais surtout on améliorait à distance la survie. Et donc ça, il faut étudier ça à plus grande échelle. Et puis, il y a après l'évaluation des stress chroniques. Le stress chronique, et ça concerne tout le monde. Savoir que le stress chronique conduit malheureusement à la maladie, conduit aussi à développer des maladies auto-immunes, des tas de cochonneries. Et ça, ça rejoint un peu peut-être dans la tête de nos politiques. On va rêver. Mais je pense que là, il y a tout un travail dans notre société hyper urbanisée à faire sur l'évaluation de ce stress chronique, et de ce stress oxydatif, et de voir ce qu'apporte le contact avec la nature et les jardins. Et là, on aura quelque chose qui pourra nous donner, je dirais, des outils de prévention. Voilà.
Merci beaucoup. Gilles, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est peut-être un peu prétentieux. Non, ce que je voulais
le,
dire...
Le moi, mot du début,
ce que je voulais dire,
nouvelle aventure.
Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est difficile d'évaluer parce que bah, l'état de santé d'un individu est lié à un ensemble de facteurs. C'est difficile d'isoler l'animation dans le jardin visithérapeutique sur l'effet du patient. Et c'est pour ça que l'objectif de faire cette recherche, c'est mieux connaître, mais mieux connaître pour mieux agir. Donc, talent, on parlait d'animation pour mieux justement adapter le mode d'animation en fonction de la pathologie du patient. Mais c'est mieux connaître aussi pour convaincre. Parce que là, je dirais que dans la salle, il y a probablement beaucoup de gens qui sont déjà convaincus avant de venir à cette conférence. Mais l'objectif, nous, c'est de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Et eux, ils ont des contre-arguments souvent qui sont assez difficiles à contourner. Voilà, donc on a besoin de preuves. Alors, on utilise effectivement, nous, régulièrement, des tests psychophysiologiques, mais bon, qu'on leur limite, hein, honnêtement. On utilise aussi des appareillages, hein, nous, on le fait, hein, sur, par exemple, le suivi des regards, où les gens regardent quand ils sont dans un jardin, s'ils vont être captés, on parlait de captation mentale, hein, s'ils vont être motivés par exemple par la flore qui s'épanouit. Voilà. Donc on utilise un tas d'éléments qui nous aident à mieux comprendre comment l'individu se comporte dans le jardin. Mais on a besoin de preuves beaucoup plus importantes. Et si tu voulais un mot de la fin, du coup j'ai envie d'en donner un.
Hein. Ah ben voilà.
C'est que ces recherches, c'est mieux convaincre pour mieux agir. Mais surtout, moi ce qui est important pour moi, eh ben, c'est de mieux à aider tous ces patients qu'on doit accompagner à guérir, et en espérant que demain on aura dans le maximum d'établissements de soins en France des jardins à visée thérapeutique.
Eh bien merci Gilles Galopin, enseignant chercheur à l'Institut Agro, pour ce mot de la fin. Merci Florence Gautignot, paysagiste conceptrice, membre de la Fédération française Jardins Nature et Santé. Merci Philippe Walsh, les Jardins à Vie. Et pour toujours, les jardiniers paysagistes de la bande, membres aussi de la fédération, et Gérard Lorimier, chirurgien en oncologie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence en public et cette émission de radio que vous pourrez retrouver en podcast et en replay sur les sites radio.imo et radioterritoria.fr. Et je rappelle que ce cycle d'émissions pour une ville nature vous est proposé par Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union européenne et par le truchement de l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage, Valor. À très bientôt, générique.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe, organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union européenne. À retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.